ce petit voile blanc là qui apparaît des fois sur le chocolat. On s'est toutes et tous déjà posé la question, non, est-ce que c'est mauvais ?
Oui, c'est une bonne question. Souvent, le goût, bon, il change pas vraiment, mais c'est vrai que visuellement, ça interpelle.
Et derrière ça, en fait, il y a toute une science, une sorte de bataille microscopique.
Exactement. Et aujourd'hui, on va explorer justement ça, la cristallisation polymorphique dans le chocolat. On s'appuie pour ça sur un article technique, très intéressant d'Alain Rossel, paru dans la revue Polytechnique.
D'accord. L'idée, c'est de comprendre ce fameux blanchissement gras, le fat bloom, comme on dit aussi, et comment les chocolatiers, ils essayent de maîtriser ça.
C'est ça. On va voir pourquoi ça arrive. Et surtout, parler de l'étape clé, le tempérage.
Alors, ce blanchissement, ça vient du beurre de cacao, si j'ai bien compris. L'article parle de polymorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ?
Le polymorphisme, pour une matière grasse comme le beurre de cacao, ça veut dire qu'elle peut cristalliser et se solidifier sous différentes formes. Imaginez des briques moléculaires qui peuvent s'empiler de plusieurs façons.
D'accord, des empilements différents.
Voilà, certaines sont très ordonnées, stables. Ce sont elles qui donnent le chocolat brillant, cassant, celui qu'on aime. Et puis il y a d'autres formes plus instables, désordonnées.
Et ce sont ces formes instables qui posent problème pour le blanchissement.
Précisément. Ces cristaux instables, ils ont tendance à bouger, à migrer vers la surface du chocolat. Et là, ils se réorganisent et paf, ça crée ce voile bien.
Ah d'accord.
Comme le dit l'article, c'est surtout un problème d'aspect pour la vente. Le goût, les arômes, ils sont peu affectés en général. Mais l'envie d'acheter.
Oui, c'est moins appétissant, c'est sûr. Et c'est là qu'intervient le tempérage alors.
Exactement. Le tempérage ou précristallisation, c'est l'opération qui vise à forcer le beurre de cacao à ne former, idéalement, que les bons cristaux, les stables.
Et comment on fait ça? Ça a l'air compliqué.
C'est un art et une science. C'est basé sur un cycle thermique très précis. On fond tout, puis on refroidit soigneusement jusqu'à une température où seuls les cristaux stables commencent à se former, les germes.
D'accord.
Et ensuite, on réchauffe très légèrement. Juste assez pour rendre le chocolat à nouveau fluide pour pouvoir le travailler, mais sans détruire ses précieux germes stables. C'est un équilibre subtil.
Oui, j'imagine. Mais qu'est-ce qui peut mal tourner? L'article mentionne des difficultés, des pièges.
Ah oui, il y en a. Une température de stockage trop haute après coup, par exemple. Ou trop basse, d'ailleurs. Un refroidissement trop rapide, trop brutal dans le tunnel.
Un choc thermique, quoi.
C'est ça. Ou même attendre trop longtemps entre le tempérage et le moulage ou l'enrobage. Tout ça peut favoriser le blanchissement. Et puis, il y a une chose fascinante.
Oui.
Même un tempérage parfait, au départ, ça ne crée qu'une toute petite fraction de ces cristaux stables. Quelques pourcents à peine.
Ah bon ? Donc le reste se forme après ?
Exactement. Le gros du travail de cristallisation stable se fait pendant le refroidissement final. Ces premiers germes doivent ensemencer le reste de la masse. Et là, un autre défi. Garantir que la température soit parfaitement la même partout dans la cuve. C'est très dur, même industriellement.
D'accord, l'homogénéité est clé.
Oui. L'auteur critique même une pratique courante qui consiste à réchauffer un bon coup à la fin pour essayer de refondre les mauvais cristaux formés par erreur. Il dit que c'est un peu illusoire, la physique est plus complexe que ça.
Fascinant. Et face à toute cette complexité, comment on sait si le tempérage est réussi? Les méthodes ont dû évoluer, j'imagine, entre l'artisan et l'industriel.
Absolument. L'artisan, il se fie beaucoup à son œil, à l'expérience. Le brillant du chocolat, sa texture, le snap quand on le casse. Certains font même le test sur la lèvre pour sentir le froid caractéristique de la bonne cristallisation.
Le fameux test sur la lèvre. Et dans l'industrie ?
L'industrie, elle, a besoin de mesures objectives, rapides et si possible automatiques. Une méthode efficace, c'est de mesurer l'exothermie.
L'exothermie ?
C'est-à-dire, c'est la chaleur qui est dégagée quand les bons cristaux stables se forment. C'est un phénomène physique. Quand la matière s'organise, elle libère de l'énergie. Mesurer ce pic de chaleur, ça donne une bonne indication en temps réel.
Malin ! Et pour aller plus loin, en recherche par exemple ?
Alors là, l'outil roi, c'est la DSC. Calorimétrie différentielle à balayage. C'est un appareil de laboratoire qui mesure très très finement comment le chocolat réagit à des changements de température contrôlés.
D'accord, la DSC. Et ça montre quoi exactement?
Ça permet d'identifier précisément quelles formes cristallines sont présentes, à quelle température elles fondent ou s'efforment. C'est grâce à ça qu'on a vraiment compris le polymorphisme du beurre de cacao. Mais bon, c'est cher, c'est lent, pas adapté au contrôle direct en production.
Donc, même avec ces outils industriels, le risque zéro de blanchissement, ça n'existe pas vraiment.
C'est un peu ce que laisse entendre l'article, oui. Garantir une absence totale de risque, c'est extrêmement difficile. La moindre variation de température pendant le stockage, le transport, hop, ça peut relancer la machine et faire ressortir le blanchiment.
C'est fou de penser que l'aspect si parfait, si appétissant d'une belle tablette de chocolat, ça tient à cette danse moléculaire hypersensible. C'est vraiment la science au service de la gourmandise.
Tout à fait. C'est une superbe illustration de comment les propriétés physiques fondamentales d'une matière première, ici le beurre de cacao, dictent la qualité, l'attrait d'un produit fini qu'on adore tous. La beauté qu'on voit dépend de l'ordre qu'on ne voit pas.
Et ça nous amène à une dernière petite réflexion peut-être. L'article nous a bien montré toute la complexité physique, les méthodes scientifiques de contrôle.
Oui, et on peut se demander, et avec toute cette science, quelle place il reste pour l'intuition, le coup de main, le savoir-faire de l'artisan chocolatier ? Est-ce que la science du tempérage va finir par remplacer complètement le toucher de l'expert ? Ou est-ce que les deux resteront toujours complémentaires pour viser l'excellence ? C'est une question intéressante, je trouve.